Effectivement, je vais essayer de faire une synthèse des travaux là qu'on mène depuis 6 ans maintenant sur le site atelier de Blois Aglopolis, donc des travaux qui visent en fait à essayer de concilier biodiversité et société en milieu urbain, donc des travaux qui sont faits en collaboration avec bien sûr plusieurs collègues. Je commencerai juste par quelques petits enjeux quand même sur l'urbanisation et les enjeux socio-écologiques. La présentation se déroule, c'est bon, ça change? Ok. Premièrement, un point qui me semble assez important, c'est au final comment arriver à essayer de conjuguer milieu urbain et biodiversité. Effectivement, on sait que l'urbanisation, qui est quand même assez galopante, hein, maintenant on a 77% d'urbains, les zones qui s'étendent énormément. Donc ça va engendrer une diminution des espaces naturels et agricoles, mais pour autant, on a des potentialités écologiques en ville qui peuvent devenir une source de refuge, notamment dans un contexte d'intensification agricole, mais aussi peut-être forestière. Deuxième point qui est plutôt sur comment en ville arriver à développer l'expérience de la nature au quotidien. Effectivement, on devient de plus en plus urbain dans nos modes de vie, notamment là, on fait beaucoup de visio, donc on parle beaucoup d'ailleurs de biodiversité et de nature de manière assez virtuelle. Donc ça engendre tout ça un déclin d'expérience directe vraiment à la nature, avec des problèmes de santé et d'anxiété qui sont assez reconnus hein, maintenant médicalement, mais également à des intérêts pour la nature et même pour la conservation de la biodiversité. Donc comment remédier à ça? Et puis un troisième point qui est plutôt dans la matérialité en fait de la nature en ville. Comment arriver à innover dans la conception urbaine? D'une part pour répondre du coup aux besoins de densifier. Maintenant on a des lois, la loi Allure par exemple qui instaure ce besoin de densifier, puis dans les documents d'urbanisme locaux, que sont les SCOT, les PLUI qui émergent, parlent de cette densification, mais en même temps, comment on reconnaît bien cette nécessité de densifier, mais comment concilier ça avec le fait de garder de la nature en ville, quand même pour de la biodiversité et également pour garder cette expérience de nature au quotidien. Donc l'idée un peu des travaux que nous menons, c'est d'essayer de trouver des solutions qui vise à faire de la ville d'une part un site accueillant pour de la biodiversité, donc plutôt une entrée de conservation, et d'autre part d'essayer de promouvoir plus largement des relations respectueuses entre les humains et puis les autres vivants. Ce que je vais faire ici, c'est présenter des résultats, mais aussi d'essayer de vous montrer la démarche progressive qu'on a eue dans nos questionnements, dans nos méthodes, et puis ça fera probablement un peu écho avec l'interdisciplinarité que mentionnait Christophe tout à l'heure sur la forêt. Alors, Blois, donc le site d'études, on est à Blois, donc on est entre Tours et Orléans. Blois, c'est 50 000 habitants. Blois est une ville quand même assez ancienne, avec un cœur historique très ancien, qui est traversé par la Loire. Et donc, dans les années 60-70, Blois s'est beaucoup développé, notamment au nord, ce que vous pouvez voir sur la photo de droite, avec des grands ensembles, donc une zone à urbaniser en priorité. Voilà. Mais également avec des zones un peu plus pavillonnaires. Actuellement, Blois, d'un point de vue démographique, est un peu plus stagnant, et c'est plutôt les couronnes périphériques qui augmentent. Donc la première question qu'on s'est posée, donc il y a maintenant 5-6 ans, et qu'on continue d'alimenter, c'est l'idée, c'était d'identifier les conditions d'accueil de la biodiversité en ville. Et on a commencé à y travailler à travers deux habitats que sont les friches. Donc un habitat écologique plutôt spontané, c'est-à-dire avec peu de pratiques de gestion qui apparaît en ville suite aux dynamiques urbaines, et d'autre part, à travers un autre lieu écologique, c'est-à-dire mais également un lieu urbain, c'est-à-dire à travers les rues, en allant regarder sur les trottoirs la végétation spontanée qui y pousse. Le premier résultat qu'on peut mettre en avant, c'est que la ville, en fait, est un filtre d'espèces, notamment d'espèces végétales. Alors, si on regarde ce premier filtre, pardon, s'exprime d'une part à travers un filtre environnemental. Et si on regarde par exemple les espèces végétales qu'on trouve en région centre, on a 1800 espèces végétales dans la région Centre-Val de Loire et on a comme ça 482 espèces qui rentrent en ville, notamment qu'on trouve sur nos friches et nos trottoirs. Mais ces 400, en gros, ces 500 espèces, on trouve déjà, c'est quand même un grand nombre d'espèces. Hein, vous voyez, il y a quand même En gros, plus du quart des espèces de la région qu'on retrouve dans la ville de Blois, rien que sur les trottoirs et les friches. Pour autant, il y a quand même un filtre qui s'opère, notamment tout ce qui est espèces oligotrophes, donc plutôt de milieux peu fertiles, et puis également les espèces de milieux humides qui ne peuvent pas rentrer en ville. Et puis après, comme ça, quand on descend dans les échelles, on a un autre filtre qui va opérer, qui est assez important, qui est un filtre plutôt de gestion, c'est-à-dire de contrôle de cette végétation. C'est-à-dire que toutes les espèces qui ont plutôt une stratégie de conservation, qui n'ont pas une stratégie de ruderale, vont être également évincées, notamment quand on va dans des espèces, dans des milieux, pardon, assez gérés comme les trottoirs. A contrario, ce filtre de gestion n'intervient pas dans les friches. Deuxième chose, par rapport à l'écologie en ville, qui est qu'au final, la spontanéité écologique, donc le fait de moins gérer, de moins contrôler, est quand même un facteur majeur pour essayer de conserver la biodiversité en ville. Ça, on le retrouve très bien justement avec les friches, donc en termes de diversité végétale, comme je viens de le dire juste avant, mais aussi en termes de diversité animale. Effectivement, en ville, ces friches sont très variables en termes de conditions environnementales. En termes de type de sol, en termes de diversité de structures végétales, et ça va être l'occasion d'amener une multiplicité en fait de conditions de refuge, de nidification et de ressources alimentaires pour plusieurs groupes taxonomiques, que ce soit des papillons, d'autres insectes comme des cicadelles, des carabes ou même des oiseaux quand on monte un peu dans les groupes trophiques. Un autre point qui est important, le premier point, c'était plutôt laisser de la spontanéité. Le deuxième point, ça va être plutôt déminéraliser la ville. Effectivement, la ville est un lieu très minéral. Et ce qu'on voit quand même de manière assez distincte, c'est que plus on déminéralise, c'est-à-dire plus on a de sol disponible, bah, plus ça va laisser une possibilité pour des plantes de s'ancrer et puis d'accéder à des minéraux et à des ressources hydriques. Et ça, on voit très bien que justement déminéraliser permet d'une part de avoir un recouvrement végétal plus important, mais aussi avoir d'autres espèces, permettre à d'autres espèces de s'implanter, des espèces qui sont plutôt prairiales et pas juste des espèces très très ruderales comme des pâturins ou des sagines qui, elles, peuvent un peu s'accommoder de tous les milieux très minéraux qu'on trouve en ville. Maintenant, également d'un point de vue écologique, on essaie d'élargir nos approches au réseau trophique, c'est-à-dire on se focalise plus que sur la végétation, mais et également d'élargir ça à des groupes plutôt méconnus en ville, mais également ailleurs. Alors pour ça, on étudie notamment le rôle des plantes pour les pollinisateurs. Là, c'est un travail qu'on mène aussi avec Nicolas Leguet, où là, on a essayé de voir si en augmentant la diversité des plantes en fleurs en ville, ça permettait d'augmenter la diversité des pollinisateurs et leur abondance également. Donc là, on avait travaillé avec différentes communes d'Aglopolis pour semer différents mélanges de végétation et voir quels pollinisateurs viennent. Ça, c'est des travaux qui sont en cours et qui tendent un petit peu à montrer, on va voir si ça se vérifie, mais que la végétation indigène est plus intéressante que la végétation exotique. Également, du coup, un autre travail là, qui est mené aussi avec des collègues de Coup d'Orléans, Michael Motelica et puis donc Nicolas Leguet, qui est l'idée de se focaliser sur un compartiment, on va dire, urbain peu connu encore, qui est les sols, à travers les structures physico-chimiques des sols, mais également les activités, les fonctions microbiennes. Donc là, on a fait 135 prélèvements, c'est encore assez récent, c'était l'année dernière. Les analyses sont presque terminées, les analyses de sol, on va dire, et actuellement, on est en train d'essayer de mettre en correspondance ces analyses de sol, des activités microbiennes, avec les pratiques de gestion qui ont été faites dans les espaces où on a fait ces prélèvements, mais également les formes et les contextes urbains dans lesquels ça se trouve. Alors, petit à petit, en fait, nos travaux évoluent à partir du constat suivant, c'est-à-dire que les connaissances et les recommandations écologiques, même en tant qu'écologue de la conservation que je suis, sont nécessaires, mais non suffisants, en fait, pour changer des comportements et pour conserver, en fait, la biodiversité. Et à partir de ça, on s'est dit progressivement qu'il était important, en fait, d'élargir notre questionnement. probablement de décaler notre manière de penser à pas juste comment l'homme en fait est une variable de forçage, hein, c'est un terme qu'on entend encore assez, quand on en parlait dans les écosystèmes, mais comment plutôt on peut les mettre un peu d'égal à égal pour essayer d'évaluer les manières de développer des relations synergiques entre société et biodiversité. Donc là, petit à petit, en fait, on a croisé les champs disciplinaires en allant également de l'écologie vers la psychologie de l'environnement, de la géographie urbaine. Alors ça, on s'y intéresse d'une part en questionnant les attitudes des habitants à l'égard du spontané. Donc là, on est rentré plutôt par l'entrée habitante. Ce qu'on a pu constater, c'est d'une part, premièrement, un fort attachement des citadins pour la nature en ville. Un attachement qui voit le jour par l'affect, c'est-à-dire que les citadins s'attachent à la nature par l'affect. Donc ça, c'est une étude, par exemple, qu'on a menée sur les bords de Loire, où on leur a posé la question sur leur ressenti et sur que pensez-vous en fait de ce lieu en ville. Et ce qui ressort assez, enfin très bien, dans les réponses de nos 200 participants, c'est cette recherche de calme, ce côté reposant et ce côté apaisant en fait de la nature en ville, notamment la des bords de Loire à Blois. Et ce qui est assez maintenant connu, hein, en psychologie de l'environnement justement, dans le fait que la nature permet de restaurer l'attention, en fait, de se restaurer d'une certaine fatigue mentale, notamment quand on est dans le milieu urbain. Et aussi, qui engendre, d'ailleurs, la nature engendre une certaine fascination du regard qui permet justement cette restauration de l'attention. Cet attachement aussi va se faire pas seulement par l'affect, hein, c'est pas seulement mental, mais c'est très matériel, très physique. Heureusement, le corps a de l'importance, donc il se fait par les usages. Et ce qu'on peut voir, notamment sur les bords de Loire, c'est que les gens, d'une part, fréquentent très régulièrement ces lieux. Et puis, ce qui est intéressant, c'est comment essayer de diversifier ces types de fréquentation à travers les aménagements. Et donc, on voit par exemple que les marcheurs se trouvent un peu partout sur les bords de Loire. Que si on veut avoir des cyclistes, eh ben, il faut faire des aménagements, comme là vous voyez sur la rive gauche, un aménagement qui permet les vélos par rapport à la rive droite, où là c'est moins permis par des cailloux. Et puis que quand on veut faciliter l'usage en position assise, plutôt contemplative, on va dire des choses, il faut aussi certains aménagements comme des bancs ou des espaces pour se poser. Deuxième point par rapport à ces aspects plus psychologiques, deuxième chose qu'on trouve, c'est une préférence pour la végétation développée. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'au final, on va arriver à faire converger, en tout cas on l'espère, des aspects de conservation de la biodiversité avec des aspects d'expérience positive de la nature en ville. Là, vous voyez, on travaille pas mal par photomontage et on demandait aux gens quelle situation vous préférez parmi les trois situations en ligne et puis les trois colonnes où on voit une augmentation de la végétation. Et en gros, ce qui ressort aussi très bien là dans les travaux, c'est que les gens préfèrent, enfin, les usagers là, préfèrent de la végétation quand même assez développée par rapport à une végétation qui est plutôt rase, colonne de gauche, qui est la situation plutôt actuelle suite à la gestion de la DDT. On retrouve aussi ce même type de résultat sur des trottoirs à travers une étude qu'on avait faite aussi par un photomontage, mais à chaque fois on travaille photomontage, mais in situ hein, également, ou alors par des enquêtes en ligne, où on mélange d'ailleurs des aspects qualitatifs et quantitatifs hein, dans nos enquêtes maintenant de plus en plus. Quand on leur présentait aux gens ces trois photos, au final les gens préfèrent. Vous avez en dessous les notes des préférences des gens. Les gens préfèrent des trottoirs avec de la végétation par rapport à des trottoirs totalement minéralisés. Hein, donc ça, d'ailleurs, c'est assez contre-intuitif quand on en parle avec les services de gestion, les services de collectivité. Pour autant, les gens préfèrent encore plus la nature quand elle est quand même déjà présente en termes de végétation, mais quand elle présente au bout quand même quelques petits signes de soins pour accompagner justement, et ces signes de soins permettent d'accompagner un peu le regard. Vous voyez, quand la végétation sur les deux photos de droite est un peu cadrée dans l'espace, même si elle peut rester déjà assez informelle dans cet aménagement-là, là, pour le coup, on a une préférence qui est encore plus exacerbée pour cette végétation-là. Cette importance des signes de soins est assez aussi, se retrouve pas mal dans les friches. Une étude qu'on avait menée donc avec une doctorante, Marion Brun, Et là, on avait posé on avait fait des entretiens devant des friches auprès des habitants. Et ce qui ressortait, c'était que les friches, plutôt en contexte prairial, étaient bien appréciées et utilisées. Les friches, plutôt où il y a le sol très tassé et peu de végétation, c'est plutôt vu comme des espaces en attente, avec des usages rares, des attitudes plutôt négatives. Et les espaces qui sont plutôt avec une végétation déjà plus exubérante, des ronciers, des lianes, des choses comme ça, qui commencent à devenir aussi très intéressants d'un point de vue de biodiversité, sont vécus comme des espaces abandonnés, bien sûr avec des usages rares. Aller jouer dans les ronciers, bon, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et donc, une attitude plutôt négative. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'au final, ce n'est pas la végétation pour elle-même qui est plutôt critiquée, mais plutôt l'abandon de l'espace, en tout cas la perception de l'abandon de l'espace par la collectivité. Donc, la végétation, en fait, n'est qu'un média, là, dans ce cadre-là, par rapport à ce que pensent les habitants de la collectivité. Et au final, donc, ces signes de soins peuvent être assez intéressants à développer. Là, vous avez un exemple d'une friche. C'est un architecte là, qui avait proposé ça à l'île Mabon, à Nantes, où là, vous avez une friche. Et du coup, c'est une friche dans laquelle on peut accéder, on peut rentrer dedans. On garde ce côté un peu exubérant de la friche, donc intéressant écologiquement. Mais du coup, on montre que la friche peut être un lieu accueillant dans lequel on peut rentrer, ça c'est important, enfin, avoir une expérience immersive du lieu. Et en même temps se reposer et puis effectuer des activités. Actuellement, là, on a un stage aussi, toujours pour creuser ça, un stage qui, dont l'idée, c'est d'aller un peu plus loin sur ce creusement de l'expérience de la nature en ville pour relier les attitudes des habitants à la biodiversité, à leur façon d'habiter la ville. Et donc là, on va partir des expériences quotidiennes des habitants pour comprendre leur attitude et leur propension à accepter un changement de gestion dans les espaces habités. Donc là, on travaille aussi en collaboration avec le service Parcs et Jardins pour vraiment tester, en fait, qu'est-ce qui pourrait changer. On progresse un peu dans nos réflexions en se disant qu'aussi, actuellement, les études écologiques approchent la matrice urbaine. Donc là, c'est plutôt cette fois l'entrée paysagère des choses. Approche cette matrice urbaine de manière encore assez simpliste. On sait qu'en milieu agricole, le paysage urbain commence à être bien décortiqué, on va dire. Le milieu urbain, c'est beaucoup moins le cas, et notamment, il y a une faible considération explicite des fonctions urbaines, notamment des fonctions de résidence, de travail, de déplacement et d'activité récréative. Actuellement, la matrice urbaine est plutôt abordée à travers des gradients ruraux ou urbains ou à l'échelle de la parcelle, mais sans considérer explicitement la complexité des formes et des temporalités urbaines. Alors, pour faire ça, on essaye de prendre en considération, du coup, de plus en plus de croiser, on va dire, en fait, des fonctionnements écologiques avec des fonctionnements urbains. Donc là, c'est le travail qu'on mène avec notamment Muriel de Paris, donc qui est en thèse avec nous, où là, vous voyez, à travers ces cartes, elle essaye de justement à travers des grilles écologiques, de vraiment creuser en fait les fonctions urbaines, donc à des échelles spatiales très fines. Vous voyez sur des mailles de 100 mètres sur 100 mètres, on va essayer de petit à petit de caractériser la ville par rapport à des approches cartographiques dans le temps et dans l'espace. Où vous voyez là, sur la carte de droite, on essaye de différencier les différents usages urbains, mais également de les différencier dans le temps à travers un peu une approche diachronique, on va dire, de ce paysage urbain. On compare aussi petit à petit, du coup, des aspects écologiques entre ces différentes fonctions urbaines. Là, vous avez une étude qu'on a faite avec une stagiaire pour comprendre la diversité de végétation plantée entre des zones résidentielles collectives et individuelles. Et effectivement, quand on s'intéresse vraiment à ces deux types de résidentiels, bah, les gens ne vont pas planter du tout les mêmes choses. On n'a pas du tout les mêmes arbres et arbustes de planter, et du coup, derrière, ça va entraîner des fonctionnements écologiques assez différents. Et puis, donc, dernière chose là, pour avancer sur ce croisement avec l'urbain, le paysage urbain, l'idée, c'est là, on rentre par une échelle, c'est-à-dire l'îlot urbain, qui va permettre de croiser aménagement écologie. Du coup, on ne rentre plus par cet aspect grille classique, spatialement non intéressant, on va dire, pour l'aménagement, mais là, on s'intéresse vraiment à des îlots urbains, donc des entités paysagères vraiment d'organisation de la ville pour après échantillonner dans la ville. Alors maintenant, vers où on veut aller? On se rend compte qu'il y a des limites des recommandations scientifiques, même quand on croise les disciplines hein, scientifiques pour aller vers l'opérationnalité. Et l'idée, c'est d'aller au-delà aussi du fossé entre scientifiques et praticiens, de se placer pas forcément comme étant scientifique sachant, mais aussi qui en étant un peu à l'écoute des observations des praticiens sur le terrain et puis à l'écoute de leurs idées et de leurs problématiques. Et l'idée, c'est d'essayer de mieux collaborer pour accompagner en fait, et tester les transformations des lieux. Et on va un peu vers ce qu'on appelle science transformative, maintenant pour employer les gros mots. Donc, dans le futur, voilà, c'est d'essayer encore développer nos travaux pour accompagner et tester les transformations. En collaboration plus avec les services et les élus de la ville et d'Aglopolis. Et donc là, par exemple, on accompagne la mise en place d'un parc agricole naturel urbain au sud de Blois, qui est un gros aménagement. On devrait accompagner aussi de la mise en place de micro-forêts urbaines. Donc, on participe en fait à la conception et après, en tant que scientifique, en fait, on va valider, enfin, on va tester en fait cette conception in situ en faisant un peu du semi-expérimental, mais en grandeur nature. Et puis l'idée aussi dans le futur, c'est d'aller vers de l'urbain lâche. Effectivement, les villes, les cœurs de ville ne sont pas celles qui grossissent le plus, c'est plutôt les communes périurbaines qui sont en forte croissance démographique et du coup spatiale. Et en plus, elles sont à l'interface avec le milieu agricole, donc ça fait émerger d'autres questionnements. Donc en conclusion, la ville, c'est un milieu enfin, qui peut être accueillant pour certaines espèces. Donc tant mieux, bonne nouvelle. Pour autant, on peut encore beaucoup améliorer cet accueil, notamment en laissant de la place pour la spontanéité écologique et en déminéralisant. D'autre part, on a des opportunités sociales pour concilier biodiversité et activité humaine, hein, en créant de ces fameuses nouvelles expériences et configurations urbaines. Pour autant, il nous semble quand même assez important d'accompagner également avec les acteurs praticiens, parce qu'on est aussi des acteurs scientifiques, académiques, d'accompagner ces transformations pour rendre des résultats de la recherche opérationnels. Donc voilà, merci pour votre écoute.